Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Richelieu, la foi dans la France » est une biographie historique de Max Gallo consacrée à Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu, figure majeure du XVIIe siècle français. L'ouvrage ne se contente pas de retracer une carrière politique exceptionnelle, il cherche à comprendre comment un homme d'église devenu principal ministre de Louis Istrui a pu incarner, selon l'auteur, une foi profonde dans la France, sa grandeur et son unité. En s'appuyant sur une narration vivante et un style proche du roman, Max Gallo met en scène à la fois l'homme public et l'homme intime malade, tourmenté, ambitieux, calculateur, mais aussi convaincu de servir un projet national durable. Le livre s'adresse ainsi à un large public intéressé par l'histoire de France, la construction de l'État moderne et les mécanismes du pouvoir monarchique. Sa force tient à l'alliance entre documentation historique et lecture interprétative du personnage. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, un portrait de Richelieu centré sur la foi patriotique et l'idée d'unité française. Le fil conducteur du livre est moins la simple carrière de Richelieu que sa conviction intime de servir la France. Max Gallo présente le cardinal comme un homme de foi, au sens religieux, mais surtout comme un homme d'État porté par une foi politique dans la grandeur du royaume. Cette perspective donne une cohérence à des choix souvent perçus comme durs ou opportunistes, centralisation du pouvoir, lutte contre les dissidences internes, affirmation de l'autorité royale et opposition aux puissances rivales. L'intérêt de cette lecture est de déplacer l'attention du seul calcul politique vers une logique de mission. Richelieu n'y apparaît pas seulement comme un stratège froid, mais comme un bâtisseur qui pense l'État comme une nécessité historique. Le livre insiste ainsi sur le lien entre conviction personnelle et action publique, ce qui permet de comprendre pourquoi son rôle a marqué durablement la formation de la France moderne. Deuxièmement, la construction du pouvoir autour de Louis XIII et la monarchie d'autorité. Une autre dimension essentielle du livre est la relation entre Richelieu et Louis XIII. Max Gallo montre que la carrière du cardinal dépend d'un équilibre fragile, avec un roi hésitant, réservé et parfois insaisissable. Cette relation politique est décisive, car Richelieu ne gouverne jamais seul, il doit sans cesse obtenir, conserver ou reconstruire la confiance royale. L'ouvrage met en évidence une forme de complémentarité entre les deux hommes, où l'un apporte l'énergie politique et l'autre la légitimité souveraine. Cette lecture éclaire le fonctionnement réel de la monarchie française au XVIIe siècle, fondée non sur une administration impersonnelle, mais sur des rapports de confiance, de rivalité et d'influence personnelle, en montrant combien l'histoire de Richelieu est aussi celle de son roi. Max Gallo explique comment l'autorité royale se renforce par l'action d'un ministre capable de dompter les résistances de la cour et d'orienter la politique du royaume. Troisièmement, centralisation, guerre et élimination des oppositions comme instrument de l'État. Le livre insiste fortement sur les moyens employés par Richelieu pour consolider le pouvoir central. Max Gallo rappelle que le cardinal doit affronter les protestants, les grands seigneurs rebelles et les puissances étrangères. Au premier rang desquels l'Espagne. Cette séquence politique n'est pas présentée comme une série d'épisodes isolés, mais comme une stratégie cohérente de construction de l'État. La violence de certains choix, souvent soulignée dans les sources, devient ici le signe d'une logique d'efficacité. Il faut écarter les foyers de résistance pour imposer l'autorité du royaume. La guerre, dans cette perspective, n'est pas seulement un affrontement extérieur, elle prolonge la bataille intérieure pour l'unité. Le livre aide ainsi à comprendre que la naissance de la France moderne passe par une concentration du pouvoir, une discipline politique et une conception exigeante de la raison d'État, au prix de tensions morales assumées par le personnage. Quatrièmement, le double visage de Richelieu, homme de pouvoir, homme souffrant et personnage intérieur, Max Gallo s'attache aussi à faire émerger l'homme derrière le ministre. Richelieu est décrit comme un être fragile, malade, parfois tourmenté, travaillé par le doute et la fatigue physique. Cette insistance sur la dimension intime évite de réduire le cardinal à une simple figure institutionnelle. Elle montre au contraire que sa puissance politique coexiste avec une vulnérabilité constante, ce qui renforce le caractère dramatique de son ascension. Le livre fait ressortir un paradoxe important: plus Richelieu semble impitoyable dans l'exercice du pouvoir, plus son intériorité apparaît complexe et exposée à l'angoisse. Cette approche psychologique donne de l'épaisseur au récit historique, car elle suggère que la détermination politique peut naître d'une confrontation permanente avec la faiblesse du corps et l'incertitude de la position. Le lecteur comprend alors que la grandeur publique de Richelieu ne repose pas sur une figure abstraite, mais sur un individu profondément travaillé par ses limites. En dernier lieu, une biographie historique écrite comme un récit accessible, entre rigueur documentaire et interprétation, la singularité du livre tient enfin à sa forme. Max Gallo choisit une écriture fluide, souvent au présent de narration, qui donne au passé une présence immédiate. Cette méthode rend la lecture accessible à un public large sans renoncer à la substance historique. L'ouvrage combine faits connus, contexte politique et interprétation psychologique, ce qui produit une biographie vivante plus qu'un essai académique. Ce parti pris a un intérêt évident, il permet de restituer l'intensité d'une époque marquée par les intrigues, les conflits de cour et les guerres. Mais il a aussi ses limites, car cette dramatisation peut conduire à privilégier la figure héroïque au détriment de certains aspects plus nuancés, comme les finances ou l'ensemble des zones d'ombre du personnage. Le livre se situe donc à la frontière entre histoire et récit, ce qui explique à la fois son succès auprès du grand public et les réserves de lecteurs plus soucieux de distance critique. En conclusion, Richelieu, la foi dans la France conviendra particulièrement à ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir le cardinal de Richelieu sans passer par une étude universitaire. Les lecteurs intéressés par l'histoire politique, la monarchie de Louis XIII, la formation de l'État centralisé et les grands personnages du XVIIe siècle y trouveront un portrait clair, incarné et facilement lisible. Le livre apporte aussi un bénéfice intellectuel précis, il montre comment une biographie peut articuler psychologie, stratégie politique et contexte historique pour expliquer une action d'envergure. Pour un lecteur curieux, il offre donc plus qu'une simple chronologie, il propose une interprétation de la puissance, du service de l'État et de la relation entre convictions personnelles et décisions politiques. Ce qui distingue cet ouvrage d'autres biographies de Richelieu, c'est son angle direct sur la foi dans la France qui donne une unité forte au récit et transforme le cardinal en figure de cohérence nationale. Son style narratif, accessible et vivant, en fait une porte d'entrée efficace dans l'histoire de la France moderne. Si vous souhaitez soutenir Max Gallo, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.